La vie du bon côté, gardez la ligne et la santé.
Et dans cette semaine consacrée à cette thématique, nous abordons un thème encore trop mal compris, à savoir l'anorexie, la boulimie, les troubles du comportement alimentaire qui touchent malheureusement encore beaucoup de personnes et qui reste un sujet mal compris et dont on ne prend pas encore bien soin. Mon invitée de ce jeudi, par téléphone, a elle-même souffert de cette problématique durant de très longues années, dont elle a pu tant bien que mal se défaire, pratiquement seule. Elle a décidé de mettre en place une SBL destinée à venir en aide aux personnes en souffrance et à leur entourage. Et elle vient de sortir son troisième livre qui s'intitule « Parfum d'enfance ». Parfum, c'est un jeu de mots bien sûr, parfum d'enfance. Anorexie, boulimie, troubles du comportement alimentaire. Françoise Liévens, bonjour à vous. Bienvenue.
Bonjour Sylvie.
Votre SBL existe dans la province du Luxembourg. Depuis 20 ans, votre équipe est composée de plusieurs thérapeutes. Vous avez pu accompagner déjà plusieurs centaines de familles de manière très variée, allant de l'orientation vers des prises en charge pluridisciplinaires. Pourquoi ça reste encore tabou, le sujet de l'anorexie ? Alors, on va plus prendre l'anorexie, même si la boulimie aussi reste un peu tabou. Mais pourquoi on n'en parle pas encore suffisamment, Françoise ?
Parce que je pense que pendant de longues années, ça a été vraiment très très mal connu. Il y a toujours l'ombre de la mort qui plane sur l'anorexie. La boulimie, elle, qui est un petit peu l'extrême opposé de l'anorexie, et les personnes qui en souffrent, bien, elles basculent parfois de l'une à l'autre. Enfin, ça dépend vraiment, il faut travailler au cas par cas. Mais ça, évidemment, la boulimie vomitive, c'est un comportement qui n'est pas très agréable à regarder et socialement qui est évidemment mal vu, mal compris. Donc, que ce soit l'anorexie, la boulimie, ce sont effectivement des problématiques qui font peur, peur aux parents, peur à l'entourage et surtout peur parce qu'on se sent impuissant. Oui, on ne connaît pas suffisamment les ressorts de tout ça et forcément, comme on ne sait pas très bien comment s'y prendre pour aider, eh bien, ça fait peur comme toutes ces problématiques.
Oui. Mm-hmm. Vous souhaitez sensibiliser, vous souhaitez démystifier, vous souhaitez offrir des solutions. Votre parcours, évidemment, est un exemple puisque vous en êtes sortie, vous avez pu comprendre des choses, mais un cas n'est pas l'autre, Françoise.
Non, un cas n'est pas l'autre, mais de toute façon, je pense qu'il faut pouvoir aborder la problématique sous un aspect très holistique, hein, c'est-à-dire voir ce qui se passe au niveau de l'esprit de la personne, des croyances limitantes, des empêchements à oser prendre sa place, à vivre pour soi-même. Et puis prendre évidemment le corps avec son aspect médical et nutritionnel, c'est incontournable. Avoir aussi une approche au niveau du corps, parce qu'à travers le corps, c'est à travers le corps que cette souffrance s'exprime. Et donc, c'est vraiment important d'avoir des prises en charge, des thérapeutes qui vont pouvoir faire parler ce corps qui dit des choses que la personne ne sait pas dire autrement.
Le plus difficile pour la personne qui souffre de ces troubles du comportement, c'est d'oser venir frapper à la porte.
Oui, parce qu'elle est enfermée évidemment dans une problématique qui, au départ, étant donné que c'est un système de défense, c'est-à-dire que c'est un moyen de survie quelque part, elle n'a pas du tout envie qu'on la défasse de quelque chose qui lui sert à vivre. Et donc, elle est aussi généralement dans une phase de déni et c'est cette première phase qui est évidemment très compliquée. Une fois que la personne reconnaît sa difficulté, sa souffrance, qu'elle veut en sortir, on peut travailler d'une manière différente. Mais il faut de toute façon essayer d'intervenir le plus rapidement possible.
Il y a toujours l'entourage qui est fortement lié à cela parce que la personne n'ose pas en parler. Il y a le jugement de l'entourage qui ne comprend pas, bien sûr, donc qui essaie de secouer la personne. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une façon de faire, Françoise, de toute façon.
Non, je pense que c'est contre-productif, mais c'est inévitable qu'en départ, en début de problématique, les parents ou l'entourage soient dans une démarche rationnelle, en disant « mais mange à table comme tout le monde et tout se passera bien » ou bien « dis-nous ce qui ne va pas », mais la personne ne sait pas le dire, puisque c'est de l'ordre de l'inconscient. Mmh. Et dans mon livre, c'est ce que j'essaye vraiment d'apporter par rapport aux deux premiers livres que j'ai écrits. Évidemment, il y a eu tout un chemin que j'ai pu parcourir en moi-même, mais un chemin qui a été un chemin professionnel puisque nous sommes toute une équipe et que nous avons des réunions en tout cas, donc nous avons une connaissance maintenant qui est quand même meilleure qu'il y a 20 ans. Et donc ce que j'essaie d'apporter dans mon livre, c'est vraiment un éclairage sur comment et à quel moment de la construction de la personnalité ce type de problématique peut trouver son origine. Alors, c'est pas, il n'y a jamais une cause, hein, c'est plurifactoriel, ça dépend de la sensibilité de la personne, etc. Mais c'est vraiment important de chercher profondément, pas seulement les causes, mais surtout comment on peut s'en sortir et quelles sont les ressources que la famille aussi peut apporter et l'entourage peut apporter. C'est vraiment très, très important de travailler au niveau de tout l'entourage.
Pourquoi est-ce qu'on relie trop souvent l'anorexie à l'adolescence? C'est peut-être faux, hein, ou c'est peut-être uniquement ces cas-là qu'on médiatise, ou c'est à l'adolescence que se marque plus spécifiquement ce rejet de la nourriture?
Oui, je pense que, comme je dis, hein, je pense que ça s'origine dans la petite enfance déjà peut-être, hein, mais au moment de l'adolescence où évidemment ils fleurent tous avec des déséquilibres, des inquiétudes, il y a l'image de soi, il y a l'acceptation par ses pairs, etc. Et donc ça peut vraiment basculer à ce moment-là où l'adolescent va trouver dans la prise de contrôle au niveau alimentaire une sorte de force. Alors c'est une force destructrice qui vont les amener à des situations où il va parfois falloir hospitaliser. Mais dans un premier temps, ça leur donne une force, une meilleure image, une meilleure estime d'eux-mêmes. Tout est quand même fort basé, et c'est là qu'il faut vraiment travailler quand on fait des prises en charge. C'est au niveau de le sens de sa valeur, l'estime de soi.
Eh bien voilà, reste à lire votre livre, le troisième qui porte ce titre « Parfum d'enfance, anorexie, boulimie, trouble du comportement alimentaire ». Il y a eu deux autres livres juste avant, « Anorexie, boulimie, mon fil d'Ariane vers la liberté », c'était en 2001, et en 2006, « Le corps ensorcelé », votre ASBL dans la province de Luxembourg qui existe depuis 20 ans, s'appelle « Anorévie ». Et c'est peut-être en poussant les portes qu'on en saura un petit peu plus. En tout cas, en lisant l'article, on aura les coordonnées et les renseignements pratiques de tout ce que je viens d'aligner et qui mérite qu'on s'y attarde pour peut-être protéger l'entourage ou peut-être accompagner des personnes qui ont des symptômes qui pourraient faire croire à des problèmes d'anorexie ou des problèmes de boulimie, en tout cas des problèmes de comportement alimentaire. Merci beaucoup Françoise Lievens, merci à vous.
Merci beaucoup Sylvie.
Prenez la vie du bon côté en podcast 24h sur 24 sur vivacité.be.